bonjour à tous.
Alors, déjà je peux remercier Dieu parce qu'il a été bien inspiré, vu que Michael a déjà dit une bonne partie de ce que je voulais vous dire ce matin dans sa présidence. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vais le refaire. Si vous l'avez écouté, écoutez-moi quand même, il y a peut-être d'autres choses. Et à la fin, j'espère que vous l'aurez entendu au moins une fois. Alors, effectivement, comme l'a rappelé Michael, je continue aujourd'hui une série qu'on a commencée sur l'épître de Jacques, qui a été commencée par Michael la semaine dernière. Et donc, la dernière fois, Michael avait un peu expliqué qui est Jacques, donc, qui est effectivement le demi-frère de Jésus, que Jacques avait un style plutôt coup de poing, et une vision très réaliste et concrète de la vie. Alors, la semaine dernière, dans le premier chapitre, il était question des épreuves dans la vie du chrétien, du fait qu'elles existent, premièrement, qu'elles peuvent être aussi un sujet de joie et des tentations qui étaient liées à l'épreuve. Aujourd'hui, on va continuer avec... Ah non, c'est bon, reste là. Pardon. Aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième chapitre du livre de Jacques. Le sujet sera assez différent, mais ça va rester relativement pratique. Avant cela, je vais vous poser une petite énigme. Alors là, je vais vous inviter à participer. Donc, faudra lever la main en montrant un nombre entre 1 et 5. Bon, vous pouvez le faire doucement, discrètement, pour que personne ne vous voit. Vous pouvez aussi le faire en l'air. Alors, l'énigme. Voilà. J'ai deux pères et deux fils qui sont sur un bateau. Combien est-ce que j'ai de personnes sur le bateau ? Alors... Ah, il y en a qui connaissent, il y a différentes réponses. C'est bien. Alors... Première réponse, qui peut venir spontanément. J'ai deux pères, j'ai deux fils. Bon, ils sont quatre sur le bateau. Et la réponse est juste. Effectivement, si, par exemple, Jean-Marc et Elliot et mon père et moi-même sommes sur un bateau, nous sommes quatre. Il y a bien, effectivement, deux pères et deux fils. Par contre, effectivement, plusieurs l'ont noté avec un petit sourire, la réponse 3 est également valable. 3, parce que si, par exemple, moi-même, mon père et mon grand-père donc son père, sont sur un bateau, ben, il y a trois personnes, mais il y a bien deux pères et deux fils. Il y en a un qui est à la fois père et fils. Donc cette affirmation, j'ai deux pères et deux fils et j'ai trois personnes, a priori elle est paradoxale. On se dit un peu, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est ce qu'on appelle un paradoxe apparent, dans le sens, c'est pas un vrai paradoxe si on y réfléchit, mais spontanément ça a l'air contradictoire. Je vais vous en proposer un autre. Donc il y a 15 jours, on m'a envoyé un SMS à 10h du matin, et j'y ai répondu le même jour à 8h du matin. Oui, je ne vous arnaque pas, j'ai vraiment répondu le même jour à 8h du matin. Donc est-ce que c'est contradictoire ? Est-ce que vous êtes en train de vous dire que je suis en train de vous berner ? Bon, j'étais au Canada il y a 15 jours. il y a 6 heures de décalage horaire avec là où j'étais. Du coup, le message qui a été envoyé à 10h du matin, je l'ai reçu à 4h du matin à mon heure locale. Et donc j'y ai bien répondu après et non avant. Alors, ces deux exemples, c'était juste pour vous montrer qu'a priori, voilà, on peut avoir... Il y a des affirmations qui, mises ensemble, peuvent sembler contradictoires. Mais en fait, si on réfléchit d'un peu plus haut, si on a une perspective un peu plus haute, on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas du tout incohérentes. Les deux peuvent être juste en même temps. Et en fait, c'est un peu la même chose avec la Bible. Parfois, dans la Bible, on trouve des textes et on a l'impression qu'ils sont contradictoires. On a l'impression... ça ne correspond pas à ce que j'ai lu là-bas. Et alors, on peut avoir une première réaction qui est, voilà, j'ai deux textes. Il y en a un que je vais considérer et l'autre que je vais minimiser, l'autre que je vais oublier. Ça, c'est très facile. Bon, ça marche aussi l'inverse. Hein. Donc, c'est l'un que je minimise et pas l'autre. Mais si c'est dans la Bible, si on fait confiance à Dieu, à ce qu'il nous a révélé, les deux doivent être pris en compte. Et il faut comprendre ce que Dieu a à nous dire aussi à travers un paradoxe qui a l'air apparent. Et là, le passage qu'on va lire aujourd'hui a l'air paradoxal en première lecture quand on connaît un petit peu d'autres passages dans la Bible. Et du coup, on peut avoir tendance soit à l'oublier, soit à se focaliser dessus. Mon objectif, ça va être de voir que ce n'est pas la peine. Alors, j'ai donc appelé ce prêche « Paradoxe et cohérence ». Oui, c'est un titre qui fait très matheux. Et alors, je vais me concentrer surtout sur les versets 14 à 25, mais les 13 premiers versets du chapitre 2, je les lirai et les évoquerai au fur et à mesure. Donc, commençons pour la lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et lorsqu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est un programme. Donc, l'annonce du plan. Alors, dans le premier temps, je vais faire un plan en quatre parties. Alors, pour ceux qui passent le bac de philo, c'est mieux trois parties. Mais, donc, un plan en quatre parties. Premièrement, expliquer en quoi le passage est paradoxal. Et ensuite, voir que ce passage nous montre la cohérence de la Bible. La cohérence nous appelle à une cohérence, nous-mêmes, cohérence en tant que chrétien. Et ensuite, finalement, que tout ça, ça montre la cohérence de Dieu lui-même. Tout un programme, c'est parti. Première partie. Et donc, on va relire un petit peu quelques extraits et voir un peu ce qui est dit. Verset 14, j'espère que vous arrivez à lire au fond, parce que ça doit être un peu petit du coup. Bon, ouais, moyen. Bon, désolé. Vous pouvez suivre dans votre Bible. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donc, on est en train de parler de salut, du fait d'être sauvé, et ce qui semble assez clair avec cette phrase, c'est que les œuvres sont primordiales. Verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bon, donc, la foi ne sert pas grand-chose, il faut les œuvres. Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Rebelote. Verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, je sais pas, vous avez peut-être entendu le petit refrain qui revenait. Alors, juste avant d'expliquer un petit peu, il est question de deux histoires de l'Ancien Testament que je veux rapidement expliquer. La première, c'est l'histoire d'Abraham. Alors, Abraham... donc c'est le père des Hébreux, à qui Dieu avait promis une grande postérité, donc en particulier au moins un fils. Et son premier fils, ce fils de la promesse, il l'a à 100 ans. Et quand il l'a enfin, Dieu lui demande de le sacrifier. Donc voilà, ça peut sembler assez paradoxal, mais la fin de l'histoire, c'est que Abraham obéit, et au moment de le tuer, Dieu l'arrête. Et le félicite pour avoir montré sa confiance en agissant ainsi. Voilà, vous pouvez trouver ça en Genèse 22. Ensuite, on a une deuxième histoire, qui est l'histoire de Rahab. Rahab, c'est une prostituée qui habitait Jéricho au moment où les Hébreux sont rentrés dans la terre promise, Israël, en Josué 2. Deux espions avaient été envoyés à Jéricho pour observer la ville avant de l'attaquer. Et Rahab a décidé de cacher les espions, leur a permis ensuite de s'enfuir, et en reconnaissance, elle a eu la vie sauve au moment où Jéricho fut détruite. Donc, si on met ces versets bout à bout, ces deux histoires, en première lecture, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'être sauvé, le salut, vient des œuvres, de ce que l'on fait. La foi ne peut nous sauver. A priori, c'est ce que dit le texte, non? Donc, ce qui je comprends bien, pour être sauvé, faire des bonnes œuvres. L'aumône, la dîme, être gentil, accueillir des personnes chez soi, surtout venir le plus de dimanches possible à l'église. Ça peut aussi être jeûner plusieurs fois par semaine, prier plusieurs fois par semaine. Je reviendrai là-dessus. Pourtant, si vous connaissez un peu la Bible, je vois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à froncer les sourcils, ou si vous venez dans une église évangélique depuis quelques temps, vous êtes sans doute en train de vous dire que je suis en train de vous embrouiller, qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, ce passage a l'air en contradiction claire avec d'autres. On va lire Romains 3, verset 28. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Alors, on met bout à bout les deux versets. Donc, à gauche, le verset de Romains 3, 28. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait accompli les œuvres qu'exige la loi. À droite, Jacques 2,24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être une histoire de traduction. Là, j'ai mis en couleur les mots qui sont exactement les mêmes en grec. Donc, d'un côté, l'homme est déclaré juste et l'autre, c'est l'homme est justifié. D'un côté, par la foi, l'autre, par les œuvres. D'un côté, sans accomplir les œuvres, de l'autre, sans la foi. Enfin, non la foi. Bon, je vous laisse là, bon courage. Non. On est clairement devant une contradiction. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? En plus, si on continue le texte dans Romains 4, versets 1 à 3, parle d'Abraham. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre père, de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet ? Quelle a été son expérience ? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Alors, en résumé, on voit exactement le même exemple, l'histoire d'Abraham. Et cette fois, c'est pour dire que c'est la foi qui le rend juste. Alors, juste après, il a été déclaré par les œuvres. Et dans Hébreux 11.31, on peut voir aussi un extrait sur Rahab. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites en voyant un éclaireur. Par la foi. Donc c'est aussi la foi qui a sauvé Rahab. Celle dont Jacques dit aussi qu'elle est sauvée par les œuvres. Alors, on est devant un ensemble de contradictions majeures. D'un côté, la Bible nous dit qu'on est sauvé. Certains passages nous disent qu'on est sauvé par la foi et non les œuvres. Et de l'autre, par les œuvres et non la foi. J'insiste sur le fait qu'en grec, c'est le même mot si vous avez des doutes. C'est une contradiction qui est très grave, parce que la Bible affirme que le problème essentiel de notre vie, c'est le fait d'être sauvé. C'est le salut. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On est sur terre pour avoir la possibilité d'être sauvé. On est devant un problème essentiel, et il faut le comprendre. Donc ça va être l'objet... c'est bon, je ne pars pas. C'est l'objet de la partie d'après, montrer que la Bible est cohérente, comprendre ensuite ce que veut quand même dire Jacques, et puis en déduire des choses sur le caractère de Dieu. Voilà, deuxième partie, cohérence de la Bible. On va relire plus attentivement le texte pour voir à qui Jacques s'adresse. Donc ça, c'est dans les versets que je n'ai pas lus, qui sont le tout début. Au verset 1, on lit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Ainsi, à qui Dieu s'adresse à qui Jacques s'adresse ? Il s'adresse à des personnes qui ont déjà la foi en Jésus-Christ, qui ont déjà placé leur foi en Jésus-Christ. Ce ne sont pas simplement des personnes qui connaissent intellectuellement qui est Dieu, qui est Jésus, mais qui disent le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et donc, dans la suite, les personnes que Jacques va réprimander sont des personnes qui disent avoir une telle foi, mais ne se comportent pas en conséquence. Je reviens là-dessus après. Au verset 7, il est aussi question « ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ?» Le beau nom que vous portez, c'est le nom de Jésus. Ça montre que ces personnes à qui Jacques s'adresse sont des personnes qui disent avoir changé d'identité, changé de nom. Elles sont passées par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire reconnaître Christ comme le Sauveur et Seigneur, ce que Michael a déjà lourdement rappelé ce matin. Non, c'était pas lourd. Enfin, on a déjà parlé du cas d'Abraham et de Rahab, et vu que le reste du Nouveau Testament a l'air de les louer plutôt pour leur foi que pour leurs œuvres. Enfin, si je reprends les passages qu'on a lus tout à l'heure, ils parlent tous de l'importance des œuvres, mais ils parlent tous de la foi. Ils disent tous qu'il y a la foi avant. C'est une question de compléter la foi. Je reviendrai sur cette idée après. Par exemple, le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Mais elle est quand même présente, la foi. Bon. Ainsi, ce texte n'est pas en opposition avec les autres textes du Nouveau Testament, car il n'est question que des personnes qui disent avoir la foi, qui ont posé la foi comme premier fondement de leur salut. Dieu est bien cohérent avec le reste du Nouveau Testament. Ainsi, c'est bon, on est rassuré. Ok, c'est pas venir dans une église chaque semaine qui nous assure le salut. C'est pas si notre vie de foi elle dépend exclusivement de cela, il faut se poser des questions. De même, si on pense qu'on est quelqu'un de bien, et qu'alors c'est suffisant pour être sauvé, on se trompe lourdement. Le salut est par foi. D'ailleurs, si jamais vous aviez l'idée de vouloir être sauvé, si on avait l'idée de vouloir être sauvé sur la base des œuvres, le texte lui-même dit que ça va être problématique. Au verset 10, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Vous avez déjà menti? Si vous me répondez non, j'ai gagné. Sinon, sinon vous avez... j'ai gagné aussi, donc c'est bon, dans tous les cas, ça marche. Si vous mentez, c'est un péché. Et vous désobéissez ainsi, d'après le verset, à toute la loi. Et donc vous êtes condamné par la loi. La base du salut, c'est la foi et non ses œuvres. Faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bon, bah c'est bon. Cependant, si je m'arrête là, en fait, je suis exactement en train de faire ce que je disais au début. J'ai considéré les autres textes et j'ai complètement oublié Jacques 2. J'ai complètement oublié ce que voulait dire Jacques, parce qu'il a quand même un but. Jacques était clairement conscient de la doctrine du salut parfois seulement. Je veux dire, il était évêque de Jérusalem, il passait du temps avec tous les autres apôtres, il savait très bien de quoi il s'agissait. Et donc, on va se demander maintenant pourquoi est-ce que Jacques a autant insisté sur cette question des œuvres. On va parler du coup de la cohérence des hommes, cohérence, un appel à la cohérence des hommes et des femmes, hein, vous ne pourriez pas oublier. Mais avant ça, une petite histoire, je vais vous parler football. Oui, ça arrive, ça arrive. Alors, je suis né dans une famille avec un grand-père, sa fille, ma mère, et son fils, donc mon grand frère, qui aimait beaucoup le football. Particulièrement, ils étaient des fans de l'Olympique de Marseille. Alors, j'ai conscience que c'est très risqué de faire ça dans la région parisienne, mais voilà, on en discutera à la fin. Mais donc, mon papy avait grandi à Marseille, donc il était fan de cette équipe. Ma mère est née à Marseille, a grandi dans le cadre fait, avec son père qui lui parlait tout le temps de Marseille. Mon frère a repris le flambeau. Bah du coup, moi aussi, j'étais pour l'OM. J'étais pour l'Olympique de Marseille. Après tout, c'était normal. C'était de loin la meilleure équipe, selon mon frère. Et s'il ne gagnait pas, c'était dû à des erreurs d'arbitrage. Ah, c'est évident. En tout cas, c'est ce que je disais à mes amis si jamais ils me disaient que l'OM avait perdu. En plus, quand j'étais jeune, c'était les années où l'Olympique lyonnais a commencé à avoir des victoires. Et moi, je suis né dans la région lyonnaise, donc tous mes amis étaient pour l'Olympique lyonnais. Et donc, la critique, c'était, oui, mais en fait, vous êtes pour l'OL uniquement, uniquement parce qu'ils gagnent. Mais dès qu'ils arrêteront de perdre, il n'y a pas de vrais supporters. Donc, je passais mon temps à critiquer les supporters de l'OL régulièrement. Et je défendais l'OM devant mes amis. Mais en fait, profondément, c'est une question pour moi, le football, qui n'a aucun intérêt. Voilà, je disais que j'étais supporter, mais je pense n'avoir jamais regardé un seul match de l'équipe de foot de l'OM. J'étais au courant des résultats uniquement parce que mon frère les criait à tue-tête dans la maison, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Bon, c'était du désespoir ou de la joie, ça dépend. Et alors, tu peux passer. Voilà, donc le côté supporter, voilà, était complètement factice, complètement hypocrite. J'avais une adhésion au club, mais en pratique, je ne faisais rien du supporter. Revenons sur le texte. Je vais relire quelques passages du texte, cette fois dans la version Summer, qui est une traduction dynamique et qui propose du coup une façon de voir ça plus concrète. Le verset 14 devient quoi? Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Donc les actes sont finalement la preuve de la foi, sont la conséquence de la foi. Versets 17 et 18, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi et l'autre les actes, eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Les actes découlent de la foi. Versets 20 à 22, tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi, sans les actes, ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Enfin, verset 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Et donc, si les œuvres, les actes ne sauvent pas, ils découlent logiquement de la foi. Ils sont nécessaires pour prouver une cohérence. Pas nécessaires pour être sauvés, mais conséquences du fait qu'on est sauvé. C'était le chant Debout Sainte Cohorte de ce matin et l'introduction de Mickaël de ce chant. Et c'est comme mon exemple avec le football. Alors, si je peux avoir une adhésion théorique pour tel club, si en pratique je ne fais rien du supporter, j'ai pas vu un seul match, je ne connais même pas un seul joueur, est-ce que c'est pas hypocrite?
Non.
Est-ce que, voilà, est-ce que je suis pas en train de me mentir et de mentir aussi aux autres? Pendant très longtemps, en gros les 16 premières années de ma vie, je savais que Dieu existait. J'avais grandi dans une famille chrétienne, donc je savais que Dieu existait, mais en pratique je vivais sans. Car ce n'était pas le bon moment pour moi, selon moi. Mais clairement, si j'étais mort à ce moment-là, cette connaissance théorique n'aurait servi à rien. La connaissance que Dieu est Dieu, même la connaissance du fait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, parce que j'avais été élevé là-dedans et je le savais théoriquement, ça sert à rien. Je vais vous montrer un dessin de Odercé, j'en ai plusieurs aujourd'hui, c'est un dessinateur chrétien. Ouais, alors du coup, ça va peut-être pas être facile. Tout à gauche, on voit, c'est pas le tout d'être chrétien. Et ensuite, on a trois personnes. Une première personne, plutôt une mamie, qui dit. On va dire que j'ai le reflet. Le bon Dieu, mais bien sûr que j'y crois. Bien sûr que je crois qu'il existe. Bon. Le bon Dieu, mais bien sûr que je crois qu'il existe. Faut que j'enlève ça? Ah, je peux prendre les deux. Ok. La deuxième personne dit ouais, moi aussi j'y crois. La troisième personne, moi aussi. Et si vous voyez bien, c'est un démon. Ça, c'est une illustration du verset 19 du passage qui dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi, ils croient. Et ils tremblent. Bon, merci. Alors, ce verset, il est dur. La semaine dernière, Mickaël en avait parlé. Proche.
Mets-toi bien dans le.
1, 2. C'est bon? Ouais. La semaine dernière, Mickaël avait déjà parlé de ce verset quand il avait fait son introduction au livre de Jacques, en disant que c'était une phrase choc, une phrase coup de poing. Oui, c'est un verset qui est dur à entendre. Mais il est tellement vrai. Les démons, ils savent bien que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Ils le savent très bien. Et ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Ils savent qu'ils sont foutus. La connaissance intellectuelle, elle ne sauve pas. Les démons, ils ont la connaissance intellectuelle. Ça leur fait peur. La foi, la confiance, placer sa foi en Dieu, c'est ça qui sauve. Et ce que montre finalement Jacques, c'est que la foi, elle se voit. D'ailleurs, lisons la fin du chapitre 1 que Michael avait abordé la dernière fois. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, d'écouter la parole, d'écouter la Bible. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Le chrétien authentique se conforme à la parole de Dieu. Il lit et entend des choses de Dieu et il vit en fonction. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas le fait de prier ou de jeûner qui va nous sauver, mais si on est chrétien, on va prier, on va jeûner, on va chercher à être en relation avec Dieu. On va chercher à passer du temps avec lui pour le connaître. Pour connaître qui est Dieu, de même que vous passez du temps à chercher à comprendre qui est un ami. Et Jésus nous a appelés amis. Jacques s'adresse dans ce passage à des personnes qui disent être sauvées, mais pour qui la foi peut n'être qu'intellectuelle. Ils pensent être sauvés, mais ça n'a pas de conséquences, ça ne se voit pas dans leur vie. Si on a témoigné dans notre vie, par exemple par le baptême, et ben ça a des conséquences. Ça a des conséquences dans notre façon de vivre. Si on vit juste comme chrétien du dimanche, c'est-à-dire le chrétien qui vient à l'église, à l'assemblée le dimanche, et le reste de la semaine vit selon le reste du tra le train du vide du reste du monde, c'est hypocrite. C'est comme mon match de foot. Voilà un autre dessin d'Odercée que j'aime bien. Alors il en a en quatre parties. Alors. Eh, monsieur, vous êtes assis sur une bombe. Face à cette cuisante réflexion, observons trois attitudes possibles. Première attitude, celle du non-croyant. Donc il est assis sur la bombe, et ça explose. Bon. Deuxième attitude, celle du croyant, qui croit au fait que cette affirmation est vraie. Il s'enfuit le plus vite possible, et on voit qu'il échappe à l'explosion. Dernière attitude, celle du chrétien du croyant non pratiquant. Oui, merci monsieur, j'en suis bien informé. Bon, et il explose. Cette image, voilà, ça peut prêter à rire, ça peut faire peur. C'est une illustration parfaite du verset. Reviens en arrière. Je l'ai pas mis sur là. Du verset 14. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses œuvres? Une telle foi peut-elle le sauver? Si on sait qu'on est sur une bombe et qu'on ne se déplace pas, enfin, la situation peut vous sembler absurde. De même, si on sait comment être sauvé, mais qu'on n'agit pas en conséquence, si on ne se comporte pas en conséquence, c'est absurde également. Voici un dernier dessin de verset. Alors, je pense que vous ne devez pas très bien voir au fond. Donc, on est dans le désert. Le désert, le sol est tout craquelé tellement il n'y a pas d'eau. Il y a un grand soleil noir. Il y a une personne avec un chiffon sur la tête qui a bien l'air bien déshydraté. Et devant, il y a un petit tabouret avec une petite nappe et un petit verre d'eau avec un petit parasol. Et ce que dit la personne, c'est « Je crois en l'existence de ce verre. Malheureusement, je ne suis pas buveur pratiquant. » Et là, on voit que c'est la même situation. C'est une histoire de... Il y a la porte de salut qui est devant lui, mais il ne veut pas la prendre, il ne veut pas la saisir. Et je trouve que cette illustration, en plus, a un autre côté que n'avait pas la précédente. C'est que le fait de saisir, le fait de vivre de façon cohérente, ça fait du bien. Boire le verre d'eau quand on est assoiffé, ça fait du bien. D'ailleurs, laissez-moi un instant. Voilà. Dieu a prévu aussi des bénédictions dans le fait qu'on passe du temps avec lui, dans le fait qu'on le serve. À titre personnel, j'ai été responsable d'un groupe GBU, d'un groupe biblique universitaire, pendant 2 ans, et j'estime que ça m'a plus apporté personnellement que ce que ça ne m'a coûté. Ça m'a pris du temps, c'est certes, c'est sûr, mais qu'est-ce que c'est par rapport à découvrir plus qui est Dieu? Donc, voilà, donc la conclusion, c'est vivons de façon cohérente. Alors, voyons voir un peu plus précisément ce que Jacques nous appelle à faire, à quelles œuvres il nous appelle. Il donne quelques exemples concrets. Je vais vous montrer les versets, donc là c'est Jacques 1, 27 et le résumé. Là c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Ensuite, le passage de Jacques 2, versets 1 à 4, qui nous apprend à ne pas faire de favoritisme dans l'accueil ou dans l'assemblée. Là en l'occurrence, il dit s'il y a quelqu'un de riche qui rentre ou s'il y a quelqu'un de pauvre, bah, vous dites aux riches de venir devant et aux pauvres de rester derrière. Non, c'est pas ça. Et enfin, le passage versets 15 à 17 nous appelle à prendre soin. Tu peux passer. Voilà, nous appelle à prendre soin des autres concrètement, par le vêtement, par la nourriture, et non en parole seulement. Et ces passages nous montrent un peu déjà dans quelle direction Jacques veut orienter ce qu'il appelle les actes ou les œuvres. Il parle de prendre soin des uns des autres. D'ailleurs, il le résume très bien au verset 8. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Finalement, pourquoi Jacques a écrit tout ce passage? C'est pour nous appeler à être cohérents en vivant concrètement l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, l'amour que Dieu a pour les autres. Et c'est ça, finalement, le service chrétien. C'est aimer Dieu et les autres en leur consacrant du temps. Ce qu'on pourrait appeler le test de l'amour fraternel. D'ailleurs, dans Jean 13, 35, Jésus lui-même dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est une preuve. Et donc, l'appel de Jacques, c'est d'aimer ses frères et sœurs. Tous. Tous. Peu importe leur niveau de richesse, leur âge, leur travail, leur intellect, leurs études, le fait qu'ils soient mariés ou non, le fait qu'ils aient des enfants ou non, et elle revient, et j'ajouterai aussi leur coupe de cheveux. Et voilà, et je connais des églises dans lesquelles, par exemple, les jeunes filles non mariées ne sont pas considérées. Elles deviennent quelqu'un que quand elles sont en couple. Et Dieu, il répugne à de tels comportements. Certes, d'un certain côté, c'est classique qu'on passe du temps avec les personnes qui nous ressemblent. Moi, j'ai spontanément passé plus de temps avec les jeunes. Les jeunes couples qui viennent d'avoir des enfants, ils vont passer du temps entre eux parce qu'ils passent par les mêmes joies et les mêmes peines. Mais n'oublions pas les autres et parlons à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été au Canada pendant 15 jours. J'ai été accueilli là-bas par une sœur haïtienne de 49 ans, célibataire et sans enfant. Et ce qu'elle m'a dit, qui m'a beaucoup fait réfléchir, ce qu'elle trouvait particulièrement dur, c'était que finalement personne ne se souciait vraiment d'elle à son église. Car les personnes de son âge, bah, ils vont parler de leurs enfants. Ils vont parler de comment ils s'occupent de leurs enfants, comment leurs enfants grandissent. Et elle, on n'a pas. Par amour, elle s'était investie dans différents services, comme le montre le texte, en réponse à ce texte. Mais certains, la garderie et l'école du dimanche, lui avaient été refusés parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Et c'est clairement, voilà, c'est clairement pas ce à quoi nous appelle ce texte. Et il faut faire attention parce que c'est très pernicieux. Là, par exemple, peut-être que les exemples que vous propose Jacques ne vous parlent pas. Vous n'allez peut-être pas spontanément. Moi, je pense spontanément, le niveau de richesse, ça ne va pas être ça qui va m'influencer. Par contre, l'âge, je pense que clairement, effectivement, quand je vois un jeune qui va arriver, je vais plus aller le saluer qu'une personne âgée. Et Dieu nous appelle à tous nous aimer. Et par ce fait, par le fait de s'aimer, on laisse transparaître notre foi. Enfin, dernière remarque pour cette partie, c'est aussi de vous inciter, de nous encourager à prendre des services dans l'église totale avec un grand E, ou dans l'assemblée locale. Car c'est aussi un témoignage de l'amour les uns pour les autres. Le fait de faire le ménage à l'église, dans le bâtiment, c'est un grand témoignage de l'amour. Le fait de prendre soin des enfants des autres couples pendant le message, par exemple, c'est aussi un grand témoignage de l'amour. Comme l'a dit aussi Mamie la semaine dernière, donc dans le cadre de notre week-end groupe de jeunes, on a tous reçu des dons et des talents. Relisez 1 Corinthiens 12, 13, 14. Mettons-les au service de Dieu, dans l'amour. Enfin, allez, dernière partie, je me dépêche. Cohérence de Dieu. Alors, ce passage, il nous a présenté une apparente contradiction. Ce problème du salut parfois par œuvre, parfois par œuvre. Pour le résumer, on peut aller voir dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est ce qu'on a dit. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le salut est parfois en Christ, en Jésus-Christ, ressuscité des morts. Nos œuvres ne peuvent pas nous permettre d'être sauvés. Par contre, si on a la foi, ça se traduit dans notre façon d'agir. Si je crois en Jésus, mais que je conserve les comportements que je pouvais avoir avant, ce n'est pas cohérent. Et notamment, voilà, au niveau de mon amour pour le prochain, Jacques nous appelle à aimer notre prochain en prenant soin de nos frères et sœurs. Le paradoxe de ce texte nous appelle à être cohérents dans notre vie. Et cette analyse, finalement, elle montre un second principe que je trouve très intéressant. C'est la cohérence de Dieu lui-même. Parfois, on va avoir l'impression qu'on a deux informations sur Dieu. Et on a l'impression qu'elles sont contradictoires. Et en fait, quelle va être notre réaction? On va minimiser Dieu ou le supprimer, carrément. C'est très humain, et notamment pour nous en Europe, en France, patrie du rationalisme, on va avoir tendance à penser que si notre raisonnement nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, notre raisonnement de pouvoir avoir tort, le problème est ailleurs. Et à titre personnel, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'en évoquais une rapidement, que certains connaissent plus concrètement, mais en gros, pendant les 19 premières années de ma vie, si je résume, j'ai pas eu de réelles difficultés scolairement. J'ai jamais eu vraiment de problème, tout allait bien. Et ma conclusion, qui découlait de cette expérience, c'est qu'avec Dieu, tout irait bien. Point 1. Avec Dieu, tout va bien. Et du jour au lendemain, tout a changé. J'ai eu plein de difficultés scolaires. Ça a duré 2 ans. Donc j'avais cette expérience concrète et l'intuition qu'avec Dieu, tout irait bien. Ça ne marchait pas ensemble. Conclusion, Dieu n'existe pas. Dans ma vie, ça a été ça, à un moment. Ça a pris 2 ans, en gros. Mais pour moi, voilà, c'était tellement paradoxal, ces deux informations, que forcément, le problème était au niveau de Dieu. Mais Dieu, il n'a jamais promis que tout irait bien. D'ailleurs, vous l'avez bien lu la semaine dernière dans Jacques 1, il y a des épreuves dans la vie. Et donc, finalement, ce que j'avais dit, la solution, elle a été simple. Je l'avais complètement faux dans une de mes deux informations. Finalement, j'avais, d'un certain côté, enfermé Dieu dans des boîtes. J'aime beaucoup cette image, je veux dire... J'ai un raisonnement limité. Ben, du coup, je vais dire que Dieu, il agit comme ça. Et s'il agit en dehors, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de bizarre. Hein. Au mieux, c'est qu'il s'est trompé. Au pire, c'est qu'il n'existe pas. Moi, c'est mon raisonnement pendant pas mal de temps. À un moment, il faut arrêter de vouloir tout décortiquer sur Dieu. C'est sûr qu'avec notre intelligence limitée, si on veut vraiment trouver, on pourrait trouver des paradoxes dans qui est Dieu. Les personnes qui n'ont pas la foi aiment beaucoup trouver des paradoxes dans qui est Dieu. Mais on l'a vu aussi dans le texte, ce qui sauve, c'est la foi. C'est pas avoir un raisonnement parfait. C'est la foi en Dieu. La foi, c'est admettre aussi que l'on ne sait pas, mais que l'on fait confiance. Faire confiance, c'est ne pas avoir forcément toutes les cartes en main. Abandonner le reste à Dieu. En admettant que lui seul peut diriger ma vie, au mieux. La foi, elle ne s'explique pas. Si on prend l'exemple de Rahab, elle avait juste entendu parler, elle a entendu parler de ce Dieu, et juste sur ce qu'elle a entendu, elle a eu la foi en cachant les espions, et elle a eu la vie sauve par là. Un exemple qui peut être encore plus parlant, c'est celui d'un enfant. Un enfant, ça ne comprend pas tout. Ça n'a pas tous les éléments pour comprendre. Ça n'a pas la puissance de raisonnement qu'on peut avoir plus tard, ou la logique de raisonnement. Mais un enfant, profondément, fait confiance à ses parents. Et il nous faut redevenir, de ce point de vue-là, comme des enfants. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 19, 14, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Dieu est Dieu. Moi, je suis un être humain. Dieu, il m'a donné de l'intelligence et c'est pour l'utiliser, mais il lui reste supérieur. Dans 1 Corinthiens 1, 25, il est dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Je ne peux pas essayer de le raisonner. Et Dieu me demande aussi de lui faire confiance. Comme un enfant fait confiance à son père, car Dieu est mon père, mon papa, en qui je peux faire confiance. Soyons des enfants. Merci. Merci Seigneur. Je vais conclure par la prière. Seigneur, je te loue pour ce texte, je te loue pour tout ce qu'il montre, c'est vrai Seigneur. Parfois on peut voir des textes qui ont l'air paradoxaux, on peut voir des difficultés, mais Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange. Et Seigneur, pardonne-nous parce qu'on peut avoir une tendance à essayer de te mettre en boîte, de te raisonner. Je te demande pardon pour cela. Et Seigneur, permets-nous de mieux comprendre qui tu es, de mieux s'émerveiller devant qui tu es. Seigneur, permets-nous aussi de nous donner une foi vivante, de se lever comme la sainte cohorte qu'on a chantée tout à l'heure. Seigneur, merci pour qui tu es. Amen.